من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله طيب Donc avant de commencer notre cours, une question pour les étudiants, une question pour les étudiants, étudiants, étudiantes. Quelle est la chose la plus dangereuse pour un musulman? Naham. Naham. Donc, Naham. Naham. Donc à chaque fois qu'il y a une réponse, on répond par Naham. Naham. Non, non, vous avez donné la bonne réponse. Vous avez donné la bonne réponse. Tamam. Naham. Naham, Cheikh Hakim. Tayyib. C'était juste pour voir, puisque on est dans le contexte du polythéisme. Donc la chose la plus dangereuse pour le musulman, c'est le polythéisme. C'est le polythéisme. Barakallahu fikum. Alors cette notion, on la connaît tous, par la grâce d'Allah. Enfin, on la connaît tous, ici à l'Institut. Mais la mise en pratique dans la communauté, c'est autre chose. Parce que, comme cela est prouvé dans ce qu'on appelle le waqi', dans notre réalité, beaucoup de gens aujourd'hui dans la communauté n'ont pas la vision correcte
du danger du polythéisme, de ce qui est le plus dangereux pour le musulman. Il y a des gens, ils n'ont pas cette notion comme ancrée dans leur cœur. Pour eux, c'est plus grave de perdre tout leur argent. Pour eux, c'est plus grave des choses autres que le polythéisme sont plus graves. Et il y a des preuves dans notre réalité. Il y a des preuves. Une fois, il y avait un savant dans un de ses cours, justement, pour tester les élèves. Il avait raconté une histoire, j'ai un peu oublié à ce qu'il avait parlé, Mouhim, une grande turpitude qui s'était produite. Faire la turpitude avec sa mère ou quelque chose d'extrêmement grave que quelqu'un avait commis. Et les élèves étaient tous incroyablement étonnés. Ils sont sortis de leur. Puis quand il a mentionné le polythéisme, le cheikh, il n'y a pas eu un tremblement ou un fracas comme cela a été le cas pour ce qui est considéré comme moindre que le polythéisme, étant donné, comme vous le savez, que le polythéisme, c'est ce qu'il y a de plus grave. Donc, une des choses les plus importantes, et c'est ce qu'on a vu dans notre cours précédent, à l'exemple des prophètes, si les prophètes avaient une peur immense du polythéisme, les prophètes que vous connaissez en tant que pardonnés avant et après pour Mohammed Ali Salatu Wassalam, d'autres qui sont comme Ibrahim à un niveau. Le plus haut niveau d'amour, al-khulla, auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Ibrahim, etc. Eux, ils avaient peur du polythéisme. Nous, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit négligent et qu'on se fasse détourner par le shaitan, qui, lui, est là pour ça. Lui, il est là pour ça. Lui, c'est son job. C'est son job de distraire, d'éloigner les gens, de les distraire de ce qu'il y a de plus important. Même la vie de tous les jours, elle peut te distraire. La dunya, elle peut te distraire. Tes enfants, ils peuvent te distraire. Tes biens, ils peuvent te distraire. Les problèmes, ça peut te distraire. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle on ne doit pas être ni distrait, ni laxiste, c'est bien le polythéisme. Aujourd'hui, les seuls gens qui sont attachés et qui mettent vraiment l'accent au maximum sur les dangers et l'éloignement du polythéisme, ce sont les gens de la sunna. Ce sont les gens de la sunna. Malheureusement, beaucoup de gens de la masse, en suivant les ambiguïtés des innovateurs, s'attaquent aux gens de la sunna, comme le pays du Tawhid, par exemple, en dénigrant par la langue, hein, en sortant sur l'État musulman, le pays du tawhid, l'Arabie aujourd'hui, par le dénigrement et beaucoup d'autres ambiguïtés. Comme l'a dit Cheikhouna Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, on ne nie pas que l'Arabie ou les gens de la Sunna, mais plus particulièrement l'Arabie, que nous ayons des manquements. Que nous ayons des manquements ou des choses, des défauts. Mais alhamdoulillah, kama dhakara shaykhana, comme l'a mentionné notre savant, c'est un pays qui est sur le tawhid. Et pourquoi parler de l'Arabie dans notre contexte, dans le contexte de notre cours, vous allez comprendre. Parce que aujourd'hui, s'il y a bien un pays, s'il y a bien un pays, n'en déplaise, ou le sera celui qui le sera et l'ignorera celui qui l'ignorera, ou fera semblant celui qui fera semblant de ne pas être au courant. Mais s'il y a bien un pays aujourd'hui qui appelle au tawhid dans le monde entier et qui interdit le polythéisme dans le monde entier par la da'wa avec les ulama, avec les ouvrages, avec les Qur'an, avec les prêcheurs envoyés dans les différents pays, avec tous les étudiants. Il n'y a personne aujourd'hui qui fait ça, à part l'Arabie. Combien d'étudiants chaque année retournent dans leur pays avec la da'wa au tawhid? Des millions, des milliers, pas des millions chaque année, hein, mais des millions depuis que la da'wa a commencé. Qui fait ça aujourd'hui? Forme des gens du tawhid et les envoie partout dans le monde. Partout. Qui fait ça? Il y a eu Cheikh Mokbel, il y a eu Cheikh Mokbel, rahimahullah, et il y a des mashayikh aujourd'hui encore qui forment des mouahidines, des étudiants, des soldats du tawhid pour les envoyer après dans le monde entier. Mais le pays en tant qu'État, etc., qui aujourd'hui fait la guerre au polythéisme et propage le tawhid, c'est l'Arabie. Naam. Donc, Inch'Allah ta'ala, n'oublions pas la priorité ultime, le danger ultime pour le musulman, le polythéisme, le shirk, l'association. Attention, c'est le plat du jour du shaitan. C'est le plat du jour du shaitan. Attention, la première chose qu'il essaiera de faire aux enfants d'Adam, c'est le polythéisme kama, comme les ont mentionné les ulama, comme l'ont mentionné les ulama. Si il n'arrive pas à faire le polythéisme aux enfants d'Adam, Adam, il leur fait faire les innovations. Si le shaitan n'arrive pas à faire les innovations, alors il fait tout pour faire tomber la personne dans les péchés, dans la désobéissance. C'est pour cela que les savants disent, il y a trois choses pour concrétiser le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a trois choses.
Afwan, il y a trois choses.
S'éloigner du polythéisme, s'éloigner des innovations et s'éloigner des péchés, des désobéissances. Ça, ce sont les trois choses qu'il faut compléter, plutôt concrétiser pour concrétiser le tawhid. Donc nous reprenons, inshallah ta'ala, notre cours là où nous l'avons laissé précédemment. Le polythéisme majeur. Le polythéisme majeur, shirkul akbar, se nomme le shirk al-akbar, la grande association. Pourquoi? On nous dit, le sheikh nous dit, ça c'est une faïda. C'est une faïda. C'est une belle faïda. Naam. Le polythéisme majeur se nomme le polythéisme majeur, la grande association, elle se nomme comme ça parce que on trouve une autre forme d'association qui est plus bas, moindre par rapport à elle. Elle n'atteint pas le degré de l'association Akbar. Donc, pour résumer, la grande association, le grand polythéisme majeur, se nomme la grande association. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite association. Taïb. Également, elle se nomme Shirk al-Akbar, grand polythéisme, parce que c'est le plus grand des péchés et que c'est la plus immense désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit comment il ne pourrait pas en être ainsi alors que le polythéisme implique de mettre au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'immense, le vénéré, le créateur, le noble créateur, de mettre au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala les créatures qu'il a créées du néant. Et comme on le sait, les créatures sont faibles, elles sont créées, elles ont donc besoin du Créateur. La créature est faible, elle est pauvre, elle est impuissante, et elle ne possède même pas pour elle-même d'apporter les bienfaits utiles ou d'apporter l'utile, ou d'éloigner le nuisible. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à celui qui va le rencontrer en ayant commis le polythéisme. Ça, c'est irrévocable. Ça, c'est irrévocable. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe, qu'on le rencontre, tout en lui ayant associé. Naam. Et comme on l'a dit dans le cours précédent, le polythéisme vient annuler toutes les œuvres. Le polythéisme vient annuler toutes les œuvres. Pourquoi? Le cheikh nous dit parce que les œuvres, elles ne seront pas vertueuses, elles ne seront pas acceptées jusqu'à ce que la personne ait réuni deux conditions. Question aux élèves, quelles sont les deux conditions d'acceptation des œuvres? Barakallahu fiikum.
Alors, la réponse se trouve sincérité et suivi du prophète. Très bien, très bien. Naham. Sincérité et conformité à la sunna. Très bien. Vous m'excusez les frères, j'avais pas vu. Que répondre à ceux qui nous traitent de chiens de l'Arabie quand on leur dit qu'on est en accord avec eux dû à leur politique de charia et que son État musulman est le seul réellement sur le haq malgré qu'on admette qu'il fasse des fautes pour tout le monde, en fait, barakallahu fik. Il faut répondre que barakallahu fikum pour les réponses, hein, c'est al-ikhlas wal-mutaba'a, la sincérité et la conformité à la sunna du prophète, alayhi salam. Concernant ceux qui traitent de chiens, ceux qui suivent l'Arabie, il faut leur répliquer en leur disant que vous n'avez pas de preuves légiférées pour nous traiter, nous juger de chiens, tandis que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les khawarij sont les chiens de l'enfer. Et critiquer l'Arabie, dénigrer l'Arabie, rendre mécréant, etc., ce sont des caractéristiques des Khawarij. Donc, ceux qui sont le plus en droit d'être jugés de chiens, je pense que vous avez compris. Non.
طيب. Donc on nous dit, Wafik Barakallah, Cheikh Abdallah. Donc on nous dit, le Cheikh plutôt nous dit, qu'il y a énormément, beaucoup de versets et de hadiths dans ce sens, qui vont dans ce sens. Et parmi les versets, le verset où Allah, subhanahu wa ta'ala, comme quoi Allah ne pardonne pas le polythéisme, il y a beaucoup de versets de hadiths qui vont dans ce sens. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc Allah Ta'ala le dit lui-même hein, dans le Coran qu'il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit également Wa qala al-Masih ya bani Israil i'budu Rabbi wa Rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار Également ce deuxième verset où Allah dit que celui qui commet le polythéisme, le paradis lui sera interdit et son refuge sera l'enfer et pas de secoureur pour les injuste. وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في الناقض الأول من نواقض الإسلام. من نواقض الإسلام. Le cheikh nous dit que précédemment, dans les chapitres précédents, dans les cours précédents, on a vu ces deux versets déjà concernant l'interdiction du polythéisme lorsqu'on a abordé l'acte annulatoire concernant le polythéisme, le premier acte annulatoire parmi les actes annulatoires de l'islam. On a parlé du polythéisme, mais on avait mentionné ces deux versets, nous dit le cheikh. Dans ces versets, il y a la monstruosité du polythéisme, comme quoi c'est le plus immense péché, et il conduit le polythéisme en enfer éternellement, et que par rapport au polythéisme, celui qui connaît qui commet le grand polythéisme, on parle du grand polythéisme ici, le paradis lui sera interdit. Le paradis lui sera interdit. Wa anna al-janna alayhi haram. Wa amma qawluhu ta'ala wa qadimna ila ma amilu. عمدنا إلى ما عملوا أي أهل الشرك ومن عمل قليلا كان أو كثيرا فجعلناه هباء منثورا وهو شعاع الشمس إذا دخل في داكور والذين كفروا وما أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمأ نعم طيب وأما قوله لئن أشركت On a déjà vu le verset également où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également que le polythéisme annule toutes les œuvres qu'on a pu commettre, même si elles ont été commises pour Allah ta'ala. Le cheikh nous mentionne également encore ce verset, la in ashrakta, et si tu aurais associé, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset s'adresse au prophète, même toi, si tu aurais associé. Ceci est une condition, nous dit le cheikh dans le verset. Naham. Qul in kana lirrahmani waladun, fa ana awwalu al-abidin. La yahbatanna amaluk, ay la yafsadanna. Donc tes œuvres auraient été annulées, vaines, c'est-à-dire qu'elles auraient été corrompues. طيب فإذا علمت أن الله أخبر أن خليله محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين كما في أول هذه الآية وكما في الآية الثانية وهي قوله تعالى Donc à partir du moment où tu as pris connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a informé que son Khalil, plus haut degré d'amour, Mohammed Ali salatu wassalam, et que les prophètes et les envoyés, comme dans le premier verset, le deuxième verset, Allah Ta'ala s'adresse également aux prophètes, là au pluriel, hein. Dans le premier verset, Allah Ta'ala il dit aux prophètes, si toi, également, si toi tu aurais associé, la in ashrakta, tes œuvres auraient été vaines, ô toi, Mohammed. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala s'adresse aux prophètes au pluriel, al-anbiya. Walau ashraku, s'ils auraient associé, la habita anhum, aurait été annulé ce qu'ils avaient œuvré. Taïb. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ont fait ou qu'ils vont faire du polythéisme, pas du tout. Allah Ta'ala les a protégés, les a préservés de cela. Taïb. فمن ذلك قوله تعالى donc là j'ai encore la même page on va la retirer
أعمالهم لكانوا من الخاسرين في الدنيا والآخرة. Donc s'ils auraient associé, s'ils auraient associé les prophètes, ils auraient été perdants dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ça, c'est ce que nous dit le savant en se basant sur le verset. Alors, regardez l'analogie. Le savant nous dit, en phrase rhétorique, hein, alors qu'en est-il de ceux qui ne sont pas des prophètes parmi les gens et qui commettent du polythéisme? Si Allah Ta'ala il dit aux prophètes, déjà aux meilleurs des prophètes et ensuite aux prophètes, il leur dit, si vous aurez associé, tous vos œuvres auraient été annulées. Le cheikh nous dit, alors qu'en est-il de nous-mêmes? Plutôt d'autres que les prophètes, s'ils associent. Wallahu al-musta'an, cela demande méditation, à méditer. Hein. Fafi ma taqaddam tashdid azim li amr al-shirk. Donc, dans ce qui nous a précédé, dans ce que on a vu précédemment, lorsqu'on a parlé ici depuis le début du cours sur le polythéisme, le cheikh nous dit que c'est vraiment très grave. C'est immense et c'est très grave, cette affaire. Donc, il faut vraiment en prendre conscience et être mis en garde de ne pas pratiquer le polythéisme. C'est ce que nous dit le cheikh ici. وَالتَّحْذِيرُ مِنْ فِعْلِهِ. Attention à être mis en garde contre la pratique du polythéisme. Et tous les péchés qui sont autres que le polythéisme sont sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui ont fait des péchés et qui sont morts sans faire taouba, Allah Ta'ala, s'il veut, il pardonne, s'il veut pas, il pardonne pas. Wallahu a'lam, pour ceux qui ont fait taouba, pour les péchés, Inch'Allah, normalement, Allah Ta'ala, il pardonne. Ce que veut nous dire le shir, c'est que c'est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de pardonner ou pas, c'est quand on n'a pas fait taouba et qu'on doit rendre compte sur des péchés. Inch'Allah ghafara lahu bifadlihi. Et si Allah Ta'ala le veut, il lui pardonne par sa grâce. Wa insha adhabahu. Et s'il le veut, Allah Ta'ala, il le châtie. Adhabahu. Il le châtie de par sa justice par rapport à ses péchés, les péchés qu'il a commis. Puis, hein, sa demeure sera, sa destination sera le paradis. Et on sait que le monothéiste, celui qui pratique le tawhid, même si il a des péchés où il devra rendre des comptes et être purifié par l'enfer, on sait que le monothéiste, celui qui a le tawhid, il n'ira pas en enfer éternellement. C'est un passage muaqqat, c'est-à-dire temporaire. Temporaire. Naham. Amma shirk fala ya'firuhu Allah liman mat wa lam yatub minhu. Tandis que le polythéisme, le cheikh nous dit, celui qui meurt sans s'être repenti du polythéisme, là, il n'y a pas de pardon. Et son refuge sera l'enfer éternel. Attention, éternel, à jamais. Kullama narizat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqa al'adhab. Sourate An-Nisa, verset 56. Ça, c'est le dalil que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas
Naham. Celui qui fait, qui commet des péchés. Naham. Celui qui commet des péchés, désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui ne s'est pas repenti avant de mourir pour ses péchés. Allah, subhanahu wa ta'ala, il sera sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si il veut, Allah ta'ala, il lui pardonne. S'il ne veut pas, il le châtie. Il sera sous la volonté d'Allah. Ça, c'est pour celui qui n'a pas fait taouba de ses péchés. Normalement, celui qui fait taouba de ses péchés, Allah Ta'ala lui pardonne. Puis le cheikh nous dit, Fa nas'alullah al-Karim an ya'simana min ash-shirki kulli aw kulli. من الشرك كله وأن يتوفانا على التوحيد وجميع المسلمين والمسلمات وفيكم بارك الله إنه على كل شيء قدير وبإجابة جدير. طيب الشيخ ensuite nous dit et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger du polythéisme, de tout le polythéisme. De tout le polythéisme. Et qu'Allah Ta'ala nous fasse mourir comme mouahid, monothéiste, comme gens du tawhid. Et tous les musulmans, et tous les musulmanes. Innahu ala kulli shay'in qadir, et Allah Subhanahu wa Ta'ala a la capacité de et sur toute chose. Donc, Inch'Allah Ta'ala, le cours du Cheikh ici, il se termine ici. Si, Inch'Allah Ta'ala, certains d'entre vous ont des questions, vous pouvez poser vos questions, Inch'Allah. Parce qu'après le Sheikh, donc il s'arrête là, hein, c'est pour ça qu'il fait une invocation. Il passe à, toujours dans le polythéisme, il passe à un autre sujet. Et ça, c'est mieux de l'expliquer dans un autre cours. Shirkul Akbar, Arba'a. Shirkul Akbar, Arba'ati Anwa'a. Donc le prochain cours, ce sera le grand polythéisme et de quatre catégorie. Le grand polythéisme est de quatre catégories. طيب بارك الله فيك فيك بارك الله شيخ عبد الله. J'ai une question à Oustaz. Qu'en est-il d'un auteur dont on ne connaît pas le renom? Doit-on se baser sur la base de la bonne pensée du musulman et supposer qu'il est sur la sunna et son livre nous est permis, ou alors on prend l'avis de l'évitement? On va prendre plus l'avis de l'évitement. On va prendre plus l'avis qu'il faut éviter si tu ne sais pas qui est l'auteur de l'ouvrage que tu vas lire. L'imam Ibn Sirin, rahimahullah, a transmis à toute la communauté une règle que même les savants ont pris comme règle fondamentale dans ce domaine. هذا الدين هذا العلم دين. Cette science est une religion. فَانْظُرُوا مِمَّنْ تَأْخُذُوا دِينَكُمْ. Et regardez d'où vous prenez votre religion. Les savants en ont fait une qa'ida, une qaïda, une règle fondamentale. Donc, il n'est pas possible de prendre un ouvrage. On ne sait pas qui est l'auteur de cet ouvrage. Ça ne veut pas dire que la règle de la bonne pensée ou de al-asl salama, c'est-à-dire la règle qui dit à la base, c'est la personne, elle est intègre, hein, il n'y a pas de souci, à la base. Mais dans ce contexte-là, non. Parce que là, il y va de notre religion, de notre aqida, de notre dogme, notre croyance, notre manhaj. Et si on fait confiance à l'aveugle, eh ben, on aura pris un risque démesuré, qui coûte très cher. Naham. Donc non, il faut savoir. Wafik barakallah, Cheikh Abdallah, hayakallah. Non, il faut savoir de qui on prend notre religion. Tayyib. Tayyib, s'il n'y a pas de questions. On m'avait posé une question, j'ai oublié. On m'avait posé une question. Vendredi, je n'avais pas encore la réponse. Je n'avais pas encore la réponse. Par la grâce d'Allah, j'ai reçu la réponse. Je l'avais posée à Cheikh Turki. Le fait de travailler. Alors j'espère que ce n'était pas une question privée. Hein. Vous m'excuserez si c'était une question privée. Faut le préciser hein, quand c'est privé, quand c'est public. Le fait de, il me semble, c'était réparer des frigos. Réparer des frigos. Des chambres froides, des frigos, travailler dans la climatisation. Et des fois, on va intervenir à des endroits par rapport à notre travail où il y a des substances illicites. Ça peut être de l'alcool, ça peut être du porc ou autre. Le cheikh a répondu, s'ils sont certains qu'il y a des substances haram, comme si mentionné précédemment, alors non, il ne faut pas travailler avec eux, il ne faut pas réparer ou travailler avec eux. Et le dalil, c'est le verset du Coran. Wallahu ta'ala dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, et ne vous aidez pas dans le péché et la transgression. Et ne vous aidez pas dans le péché et la transgression. Naam. Wallahu a'lam. طيب لا يوجد استفسارات وأجوبة donc inshallah ta'ala aujourd'hui on va se contenter de cela à Oustad en parlant de ça s'il vous plaît naam wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam Alors, si une personne travaille dans un lieu où ils emballent de la viande non halal, si une personne travaille dans un lieu, ça veut dire que est-ce qu'elle travaille juste et que cette personne nous offre par exemple un mouton payé avec cet argent? Alors, si une personne travaille dans un lieu où ils emballent de la viande non halal. D'accord. Par exemple, une personne va travailler dans une abattoir, dans une boucherie, dans un n'importe où, dans un lieu où ils emballent de la viande non halal. Ils l'emballent. Taïb. Et que cette personne nous offre, par exemple, un mouton payé avec cet argent. Il faudrait plus de précision. Cette personne, elle travaille dans un endroit où ils emballent de la viande non halal. Est-ce que lui, il emballe de la viande non halal? Ou est-ce qu'il travaille juste dans un endroit où est emballée la viande non halal, mais lui, il emballe que de la viande halal? Je sais que c'est peut-être un petit peu embêtant, mais pour avoir une bonne réponse, une vraie réponse, faut toujours que la question soit bien dakhik, précise. Ne sais pas si vous avez saisi. Je ne sais plus, puis-je avoir la réponse en fonction des deux cas? D'accord. Alors, je remonte, hein. Vous m'excusez, comme c'est l'allergie, je suis au ralenti à cause de l'allergie. Qaddar Allah. Vous avez dû le remarquer, je suis au ralenti. C'est pour ça que je relis et j'ai pas tout mon. Mais alhamdoulillah, on est là. Si une personne travaille dans un lieu où il emballe de la viande non halal, où ils emballent. Alors ça, c'est le premier cas. Si cette personne, elle travaille dans son lieu et qu'elle emballe elle-même de la viande qui n'est pas halal, elle vous offre un mouton. Normalement, il faut savoir si ce mouton, il est acheté dans son travail, que c'est un mouton pas halal, c'est sûr qu'il ne faut pas le prendre. Si le mouton, il est acheté avec l'argent où il travaille dans le haram, parce qu'on n'emballe pas du haram, hein. C'est participer au haram. Là, j'ai un trou de mémoire, il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie si son argent, il est haram ou pas. J'ai un doute. Il y a beaucoup de paramètres, hein. Paramètres, pardon. J'ai un doute, donc il faut que je vérifie. Est-ce que cette personne nous offre, par exemple, un mouton payé avec cet argent? En principe, quand on a de l'argent haram, eh ben, tout ce qu'on va acheter pour offrir ou autre, ben, c'est de l'argent haram. Mais je vais quand même vérifier. Je vais quand même vérifier. Mais en principe, c'est le principe dans la charia. C'est le principe dans la charia. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup de trilèf, etc. Non, je ne sais plus, puis-je avoir la réponse en fonction des deux cas. Le deuxième cas, c'était quoi? Ça m'évitera de vous la reposer une fois que la personne m'aura dit, excusez-moi, c'est... Non, non, il n'y a aucun souci. Car j'ai quelques morceaux de mouton et je ne sais pas si je dois les consommer. Dans le cas où cette personne, elle travaille dans le haram, elle emballe de la viande haram. Parce que c'est de la viande haram. Si la viande, elle est pas halal, c'est de la viande haram. Dans ce cas-là, Wallahu a'lam, je vais quand même vérifier, mais ne mangez pas. Jusqu'à ce que je vous ai donné la réponse, je pense fortement que il faut pas la manger. Mais comme il y a beaucoup de trilèves, des règles, etc., Wallahu a'lam. Par contre, dans le deuxième cas, où si lui, il travaille dans un endroit où il y a de la viande haram qui est emballée, mais lui, il emballe de la viande halal, Wallahu a'lam, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Lui, il est payé pour emballer la viande halal. Il n'a rien à voir avec le haram. C'est pas son... C'est leur problème, ceux qui emballent. Taïb? Ça, c'est confirmé. Mais pour celui, normalement, hein, dont l'argent est haram, je préfère vérifier, inshallah ta'ala. Je vais essayer de retenir, voilà. Taïb. Parce que ça semble, pour beaucoup qui connaissent pas le fiqh, ou sur le fiqh, ils vont dire, mais non, c'est normal. Il travaille dans le haram, c'est haram. Mais c'est pas dans tous les cas. C'est pas dans tous les cas. Il y a des khilafs, il y a des cas où... Je vais vous donner un exemple, ce sont des exemples, là. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple. Si quelqu'un, il fait la prière avec des vêtements volés. Avec des vêtements volés. Il y a des savants qui disent sa prière, elle est valable. Sa prière, elle est valable. Donc c'est un exemple, hein. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de choses où on peut croire, oh c'est haram, oh. Il y a un khilaf également, quelqu'un qui fait le hajj avec de l'argent haram. Il y a un khilaf également entre les savants. C'est pour ça que je préfère pas m'avancer avant d'être sûr. Ils emballent des tas d'alimentation, pas que la viande. Il y a des légumes, des fruits, de la viande, etc. Si lui, il n'emballe pas la viande haram, ah, attention. Ah, vous avez bien fait de préciser, hein. Vous voyez un autre paramètre qui change tout. Un autre paramètre qui change tout et vous allez voir, la fatwa, elle va changer. C'est pour ça, vous voyez, il faut jamais s'avancer. Ça, c'est bien pour vous, c'est de la faïda. Alors, si il y a, wallahu a'lam, d'autres produits, c'est-à-dire, à part le haram, il y a des autres choses qui sont halal. Comme là, vous dites, il y a des fruits, il y a des légumes. Alors, Cheikh Al-Uthaymeen, on lui avait posé la question, et je vais vous donner l'exemple, la question qu'on lui a posée il y a 20 ans à Cheikh Al-Uthaymeen. Cheikh Al-Uthaymeen, Yaqoul, c'est le plus fort qui l'emporte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est celui qui a la quantité la plus élevée. S'il y a plus de halal, c'est le halal qui l'emporte. Son argent, il est halal. Vous pouvez prendre. S'il y a plus de haram, ça veut dire il y a un tout petit peu de légumes, mais sinon il fait que de la viande haram. Non, c'est haram. On avait posé là, et oui, vous avez vu? Ah ouais, faut pas s'amuser à répondre aux questions comme ça, ou il faut du détail. Mohim. On avait posé la question à Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Voilà, on connaît une personne de notre famille qui a un bar, restaurant, hôtel et qui vend de l'alcool. Il nous donne de l'argent pour les enfants des fois. Et on avait posé la question à Cheikh Al-Uthaymeen, il vend, et il y avait de l'alcool, hein, c'est un bar. Hein. Et Cheikh Al-Uthaymeen avait répondu, c'est le plus fort qui l'emporte. S'il y a plus de halal, alors tu peux prendre. S'il y a plus de haram, si le halal il l'emporte, et dans ce genre de commerce, c'est, comment dirais-je, la grande recette, c'est l'hôtel. C'est l'hôtel, c'est pas l'alcool. L'alcool, c'est pas beaucoup. Et cet argent, tu peux l'accepter. On avait posé la question à Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Donc, je crois qu'il y a une autre question d'un frère. Donc, la faïda pour vous ici à tirer, c'est que je vais vous donner une grosse faïda. Faites très attention. Vous avez vu comment il y a des gens, ils manipulent les savants pour avoir la réponse qui les intéresse. Ils manipulent les savants. Il y a des gens, ils connaissent ces règles-là, ils savent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent les questions d'une manière qu'ils savent que ça va donner leur propre réponse, celle qu'ils attendent. Ou alors, ils vont aller chercher la réponse chez un cheikh qu'ils savent que lui, il pratique telle qaïda, tel avis. Donc, vous voyez, c'est très facile quand il faut être sincère et honnête.
Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc une dernière question. Cheikh Abdallah. Pas de souci, Cheikh Abdallah, on est dans les temps, on a du temps. J'aimerais devenir professeur, je reprends les études pour. Est-il licite de devenir professeur de maternelle dans les écoles de Koufar? Barakallahu fik. Alors. Dans les écoles de Koufar, les savants disent. Si tu n'es pas confronté au irtilat, la mixité, c'est-à-dire que ce travail, s'il n'y a pas de déviance dans la religion, alors moi je ne connais pas tout, la maternelle, comment ça a évolué, etc. Et en plus, attention, alors je vais donner la règle de base et après on va citer des exemples. Et je pense même que les étudiants doivent pouvoir nous aider, pas dans l'argumentation légiférée, mais dans les exemples, hein, les programmes, qu'est-ce qu'ils apprennent, etc. On va voir ça après. Wafikum barakallah, wafikum barakallah. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Les écoles de maternelle, qu'est-ce que j'allais dire? A'oudhu billahi minash shaitan rajim. Donc la règle de base, c'est que s'il n'y a pas d'empêchement, c'est-à-dire de déviance dans la religion. Tu vas être confronté à des interdits, confronté à des interdits, la mixité, le ceci, le cela. Là, s'il n'y a pas tout ça, ça va être permis. Mais on reprend cette règle de base. Il faut pas qu'il y ait de déviance dans la religion. Est-ce que moi je connais pas le programme de la maternelle, mais si dans le programme de la maternelle il y a des comme on vient de me dire là, maternelle, musique, fête, Noël, il y a déjà des déviances, voilà, dans la maternelle, les enfants, le programme, ça va, c'est pas le programme, il y a du coffre, il y a du mensonge. Donc moi, ce que je t'aurais conseillé, c'est trouve une école musulmane, mashallah. Trouve une école musulmane où tu peux... parce que les étudiantes, hein, elles nous disent, elles connaissent bien. Hein. C'est pour ça que je leur ai demandé leur concours. Du shir, qu'on nous dit, beaucoup de haram, des comptines, du Noël, l'impudeur. Mélange aux toilettes, j'ai pensé à ça, c'est vrai. Inconsciemment, devant tout le monde, etc. La théorie du genre, a'ouzou billah. A'ouzou billah. Donc tu vois, Abdallah, s'il y a tout ça, en pratiquant la règle de base, Cheikh Abdallah, alors, Cheikh Abdallah, il nous répond, pas obligatoirement, tu décides un peu ton programme. Mes deux parents sont professeurs de maternelle et ont toujours fait leur propre programme sans leurs idées d'État, etc. Mon père, par exemple, ne fait ni Noël, ni shirk, etc. Et ils ne lui disent rien. Allahu a'lam. Alors, comme je t'ai dit, Cheikh Abdallah, il y a la règle de base. Ça, c'est la règle de base dans la législation. On te dira pour un travail, s'il n'y a pas de déviance, de contradiction avec la religion, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert, mais j'avais toujours. Allahu a'lam, c'est vrai. C'est vrai. Si le frère le dit, c'est que le professeur choisit son programme. Khlas, hein. Ce n'est pas mon domaine, hein, d'entrer dans est-ce que tu as le droit de faire le programme, c'est toi qui choisis ou pas, ça c'est vous qui savez, moi je sais pas, mais moi je vous donne la règle légiférée dans la religion. S'il n'y a pas de choses qui sont en contradiction avec ta religion, et on a cité des exemples, on peut pas t'interdire. Mais attention, attention, il faut prendre conscience, attention, j'insiste, cette règle, elle est extrêmement vaste, hein. Faut que tu puisses faire ta prière à l'heure. Faut que, y a beaucoup de choses. Faut que tu aies ton vendredi. Il faut pas que ça soit une barrière à tout ce qui était obligatoire dans la religion. Oui, de préférence musulmane, t'auras pas tous ces problèmes, t'auras ton vendredi. À un moment, ils vont bien capter que t'es musulman, ils te feront des problèmes ou je ne sais quoi. De préférence, voilà, celui qui laisse quelque chose pour Allah, Allah lui donne mieux. Wallahu. Moi aussi, j'ai travaillé dedans. Alors, généralement, l'équipe éducative se met en accord sur une ligne éducative, mais il y a toujours un haram. Barakallahu fik pour les étudiantes, habituellement, du prof, ou une alternative, faire les études et aller travailler dans un pays musulman ou en ligne dans les écoles en ligne musulmanes. C'est vrai, hein? C'est des bons exemples, Cheikh Abdallah. Professeur, ça marche dans Allahu a'lam, dans tous les pays arabes. Je le sais, je le sais. Hein. Tu peux aller faire prof de français aux Émirats, faire prof pour les enfants, tu peux aller au Maghreb, tu peux aller aux Émirats, tu peux aller où tu, bismillah ou ta'ala, où tu veux. Al-Muhim, on va pas te forcer ou on te dit ce qui est mieux pour le musulman. Naam. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha, ben ça te facilitera la hijra et ça te facilitera également une subsistance dans un pays musulman. Wallahu a'lam wafik barakallah. En tout cas, barakallahu fikum pour votre participation, les étudiantes, les étudiants, pour vos éclaircissements. Barakallahu fikum wa hayakum Allah. Inshallah ta'ala. On se rejoint pour le cours dans une vingtaine de minutes pour le deuxième cours. Je crois que c'est Ulum al-Qur'an. Barakallahu fiikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.